7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Sandrine Mercier.
Bonjour les voisins, les voisines, ravis d'être ensemble sur RFI en ce jour du 14 juillet, fête nationale française, et nous avons choisi ce jour pour célébrer l'amour, l'amour après 60 ans. Il n'y a pas d'âge pour s'aimer, ni pour se séparer d'ailleurs. À l'heure de la retraite, de plus en plus de couples divorcent et partent en quête d'une nouvelle âme sœur. Alors qu'est-ce qu'on recherche alors? Compagnie, frisson, grand amour, le sentiment d'amour après 60 ans est-il le même qu'à 20 ou 30 ans? Comment se projeter alors dans une vie à deux? Est-ce si simple quand on a déjà vécu des histoires d'amour auparavant? Et comment c'est vu par l'ensemble de la famille, des parents et de la société? On en parle aujourd'hui avec Linda Aïn Amiri. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychanalyste, formatrice et superviseur d'équipe soignante dans les maisons de retraite. Et je vous remercie d'être avec nous en direct en ce jour de 14 juillet. C'est une première pour vous, la radio.
Tout à fait. Merci de m'avoir invitée.
Et merci de vous jeter à l'eau. C'est un peu comme dans une histoire d'amour. Il faut oser. Merci d'avoir osé. Nous aurons en ligne un peu plus tard Hervé Sauzet, qui est président de l'Institut français des seniors. Avec lui, on verra comment la retraite bouscule le couple. Dans la deuxième partie de l'émission, Marie de Henzel, qui est psychologue, auteur de Sex and the 60 aux éditions Robert Laffont et Versilio, spécialiste de l'art du bien vieillir, on peut dire ça comme ça, et on verra que l'amour y est pour quelque chose dans ce bien vieillir. Et les seniors osent aussi de plus en plus l'amour sur Internet. On en parlera avec Benoît Combes du site de rencontre Net Senior. Et pour clôturer l'émission, on va parler d'une toute nouvelle radio sur Internet, c'est Radio Divorce. Une idée originale et toute nouvelle de Yves Toledano, qui est avocat. C'est un spécialiste du divorce et il a donc fondé Radio Divorce. Alors le principe de cette radio, des conseils d'avocats en direct. Les voisins, les voisines, que vous inspire l'amour après 60 ans? Pensez-vous que c'est possible de retomber amoureux? On attend vos questions, vos commentaires au 33 1 84 22 71 71 et sur nos pages Facebook.
7 milliards de voisins, c'est sur RFI.
Les messages sur Facebook arrivent, alors j'ai envie de commencer avec Oumar qui a 31 ans lui. Il nous appelle, il écrit du Sénégal. Est-ce que l'amour à 60 ans est plus sincère? C'est son interrogation. Les soixantenaires qui ont déjà aimé savent peut-être mieux le faire après 60 ans, on en parlera tout à l'heure. Il y a Sandra qui écrit un message de Madagascar, il n'y a pas d'âge pour aimer. L'important, c'est d'être sur la même longueur d'onde, qu'on soit vieux ou pas. Mais il n'y a pas de vie meilleure que celle comblée d'amour. Massaman de Dakar, oui, qu'on aura peut-être tout à l'heure au téléphone. Lui, il pense que le sentiment amoureux après 60 ans, c'est plutôt un sentiment de reconnaissance et de soutien. On cherche plus de complicité. Et je vais terminer avec Jean de Haïti. Aimer et faire l'amour n'ont pas d'âge limite. Continuez de nous écrire sur Facebook ou de nous téléphoner aussi au 33 1 84 22 71 71 pour parler à l'antenne. Bref. Les seniors sont 20 millions en France, soit plus d'un tiers de la population. Et une fois à la retraite, on peut encore imaginer vivre au moins 20 ans en France avec l'expérience de vie actuelle. Et l'amour dans tout ça, les seniors sont de plus en plus nombreux à refaire leur vie. Qu'est-ce qui se produit, Linda Aïn Amiri, vous êtes psychanalyste?
Eh bien, c'est ce qui peut l'arriver de mieux hein, pour des personnes qui, à la retraite, ont plus de temps, ont plus de moyens, donc ils ont envie de nourrir leur quotidien, et le lien amoureux, c'est ce qui permet de rester d'abord en bonne santé et de jouir de la vie et d'être disponible à soi et à l'autre.
Oui, on vit plus longtemps hein, quand on est en couple.
Tout à fait, c'est les statistiques qui le montrent. On vit plus longtemps, on vit en meilleure santé, et puis on a un autre érotisme. C'est plus l'érotisme de la performance comme on a pu en avoir jusqu'à la quarantaine. On est dans une recherche de découverte de sensualité, de soi, qui n'est plus du tout dans la performance, mais plus dans la rencontre, dans la découverte de son corps, de ce que suscite le corps chez l'autre, et il n'y a plus ce regard d'un corps qu'il faut qu'il soit jeune, beau, désirable. C'est un corps qui reste désirable, mais avec les traces du temps.
Alors la solitude, à vous écouter, serait plus mortelle que la cigarette ou même la maladie, si je comprends bien.
On peut le dire, hein. De toute façon, on l'a même vu chez les enfants, hein. Le syndrome de l'hospitalisme, c'est des enfants qui ont tout, à qui on donne, on change, on nourrit, on s'occupe d'eux, mais il n'y a pas le lien privilégié, le lien à l'autre, et ils finissent par se laisser mourir.
Donc ce serait une forme d'instinct de survie, en tout cas, qui nous pousserait à nous remettre en couple même tard. Là, on va écouter Roger et Monica, qui ont 80 et 85 ans. Alors, ils étaient nouveaux célibataires et ils se sont rencontrés dans un bal dansant, il y a tout juste 3 ans. Et depuis, ils ne se lâchent plus la main. Reportage d'Antoine Lalanne Desmet.
Je n'avais pas dansé avec toi.
Non.
Et à la sortie du bal, je dis, oh, elle est mignonne, cette petite dame, je lui causerai bien. Comment faire? Moi, je suis pas timide. Oui. J'ai demandé, êtes-vous contente de votre après-midi? Et tu m'as répondu, oh, bon, tellement. Alors, je me suis dit, attention, il faut que je sorte des arguments pour essayer de lui causer plus longuement. Et puis, finalement, je te faisais rire. Il faut toujours faire rire, les dames.
C'est vrai. J'étais très intimidée. J'ai perdu mon mari, ça va faire 10 ans. Je vivais vraiment seule. Je ne cherchais pas du tout. Et puis, il m'a invitée à prendre un verre. Et puis, je ne sais pas, au café, on faisait que de se raconter des petites histoires de notre temps, je ne sais pas, mais on faisait que de rire, parce qu'il riait de ce que je lui disais, moi aussi. Et quand on est sortis, peut-être quelques temps après, il m'a prise par la main. J'ai trouvé ça touchant. Et serré, alors là, on l'a compris.
Et on la lâche plus depuis 3 ans.
On la lâche plus depuis 3 ans.
Qu'est-ce qui vous séduit chez Roger?
Sa gentillesse, envers moi. Toujours bien s'occuper de moi, de me coiffer. Ma petite mèche. Ah, ça, j'apprécie.
Roger vous coiffe?
Oui, quand on sort, il me laque les cheveux.
Si sa frange est trop grande, par exemple, je prends un petit ciseau, que je coupe un peu, que je la coiffe. Voilà.
Ça, j'adore. voilà, une gentillesse.
Quand on marche, on se donne toujours la main. Toujours.
Et pendant que vous parlez, Monica, vous touchez le bras de Roger, collez l'un à l'autre.
Ah, oui, oui.
Ah, Monica vous prend la main, Roger.
Ah oui, pendant tout ce temps-là, toujours.
Comment votre entourage a perçu votre relation?
Moi, j'en ai parlé.
Toi, ils étaient étonnés, toi.
Oui,
parce que t'étais pas, ouais. C'est pas pareil.
Oui, voilà, ils étaient surpris parce que j'étais plutôt la femme droite, timide, rangée.
Qui avait peur des messieurs.
c'est vrai. Moi, j'aurais jamais cru. Moi, j'aurais pensé vivre seule comme ça jusqu'au bout. J'avais mon fils, ma fille, mes petits-enfants. Et il n'y avait que qui comptait, puis voilà. Moi, je disais toujours, je reste pour mes enfants. D'un sens, c'est un tort. Quand on trouve quelqu'un de bien, eh ben, faut prendre. Sinon...
C'est dur. Ça tombe comme ça qu'on les mêmes goûts dans tout. Parce qu'on s'entend sur tous les sujets. Je propose les balades quand on va au parc floral ou autour du lac de Vincennes ou ailleurs. Je sais d'avance quand même dire oui, dis toujours oui.
J'avais peur aussi pour ma fille de l'avoir un peu touchée envers son papa, peut-être de quitter de ça, mais non.
Moi j'ai des enfants, j'ai des filles aussi. Non, j'étais contente aussi que je rencontre Monica. Non, pas de même du tout avec les enfants. Non. Mais n'importe comment, même s'ils n'avaient pas été d'accord, ça n'aurait rien changé.
Est-ce que vous vivez ensemble?
Non.
Pourquoi?
Je sais pas. Faut dire que t'es habitué aussi dans ton quartier, tout ça, t'es bien, tout ça. Mais des fois, dans la vie, faut pas trop en vouloir, faut pas trop changer, puisque ça va. Mais je lui ai déjà proposé, sans ça.
Oui, bien sûr.
Et est-ce que vous venez souvent chez Roger, Monica?
Oui. Et tout le monde est inquiet, parce qu'il me voit moins dans mon quartier, puisque je suis ici des fois la semaine.
Et qu'est-ce que vous répondez?
Eh bien, que j'ai un ami, maintenant.
Et vous dormez ici, alors, chez Roger?
Oui. Mais on a 2 chambres. Plus on prend de l'âge, plus on aime bien être seul pour avoir ses aises, tout ça. Il y a une chambre qui a 2 lits, l'autre chambre a 1 lit. N'empêche que de temps en temps, je me carapate de la chambre 1 lit pour aller rejoindre la chambre 2 lits. Car il faut bien qu'il lui fasse des petites caresses, des petits bibis.
Les bibis, c'est les bisous.
Voilà, c'est des bisous. Des bisous. Même à notre âge. Seulement, ça s'arrête à un endroit qu'on ne fait pas toujours ce qu'on veut, comme quand on a 20 ans. Surtout un homme. Bon, il y a beau avoir des médicaments, mais ce n'est pas naturel, ça, c'est pas naturel. Mais enfin, il y a des fois, ça suffit. Du moment qu'on se sent aimé et tout. Hein, toi qui es câline, c'est vrai.
Ah oui, oui.
Et moi aussi. Oui. Eh bien, on ne pourrait pas ne pas avoir de petits trucs. Oui. Ben non. Oh non. Ah oui, oui, c'est vrai. Ah non, c'est très important, c'est vrai.
Linda Aïn Amiri, vous êtes psychanalyste, vous travaillez aussi auprès des personnels dans les maisons de retraite. Vos réactions au témoignage de ces deux tourtereaux, Roger et Monica, 81 et 85 ans?
Eh bien, c'est un beau témoignage, hein, parce qu'en effet, dans les maisons de retraite, on a l'impression que les personnes qui viennent en maison de retraite, c'est leur dernière demeure. Et puis pour certaines, elles font des rencontres hommes ou femmes, et ça les maintient en vie et ça leur donne envie de rester en vie jusqu'au bout, parce que il y a cette reconnaissance, cette émotion. Et c'est vrai que pour le personnel soignant, parfois c'est surprenant. Et donc on travaille pour les sensibiliser à l'importance d'une vie amoureuse.
Parce que c'est quand même vraiment un tabou énorme.
Tout à fait. Chez les jeunes soignants, je dirais, peut-être plus que chez les plus âgés, et encore, enfin, ça dépend en fait des personnes, ça dépend des parcours des soignants, mais c'est vrai que ça reste un tabou, et elles ont, enfin, pour certaines, elles ont du mal à imaginer qu'il puisse y avoir une relation amoureuse entre deux personnes âgées.
Alors, est-ce qu'on rêve d'amour jusqu'au bout ?
En effet, ça maintient en vie, comme vous l'avez bien signifié, et c'est très important. Simplement, l'amour n'est pas tout à fait comme l'amour, c'est se tenir la main, se regarder, se caresser, sentir la peau de l'autre. C'est pas comme on imaginerait. Enfin, quand c'est possible, c'est tant mieux. Moi, j'ai dans mon cabinet des patientes qui viennent me voir, mais pas pour cela, mais pour autre chose. C'est sur d'autres problématiques qui témoignent de l'importance de la jouissance dans la relation amoureuse à 75 ans. Elles ont envie encore de se sentir désirables dans le regard de l'autre, et elles disent bah, la jouissance, c'est comme quand elles avaient 25 ans. L'éprouver à 75 ans, eh bien, ça les relie à la femme qu'elles étaient quand elles avaient 25-30 ans.
Donc à ce moment-là, elles oublient leur âge, elles oublient qu'elles ont 85 ans et elles redeviennent cette jeune fille.
Tout à fait. Ça les ressource, ça les apaise, ça permet de, voilà, d'érotiser le lien, d'être inscrite dans le lien, d'être préoccupée par l'autre. Et c'est quand même ce qui est important quand on est vivant.
C'est de se sentir exister aussi, parce que c'est vrai, oui, que passé un certain âge, les autres nous regardaient beaucoup de compassion ou pas vraiment beaucoup d'intérêt. Oui. Donc là, tout à coup, c'est de se sentir exister à travers l'autre qui vous donne un petit coup de fouet.
Et de se sentir femme, désirable, avec cette envie de plaire et de sentir son corps vivant.
Alors, vivre une histoire d'amour après 60 ans, on va continuer. Les voisins, les voisines, appelez-nous au 33 1 84 22 71 71. Également, laissez vos messages sur Facebook. Alors, on vit plus longtemps, hein, donc on peut envisager maintenant d'autres relations. Et sur les 10 dernières années, alors j'ai lu une augmentation de 40% des divorces, donc sur les plus de 60 ans. Qu'est-ce qui se passe donc dans notre société? Pour approfondir le sujet, nous avons au téléphone Hervé Sauzet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de l'Institut français des seniors. Alors, quelles sont les raisons, je dirais, qui poussent aujourd'hui de plus en plus de couples à se séparer après 60 ans?
Alors, d'abord, il faut aussi se rassurer en se disant que la plupart ne se séparent pas. Et le taux de divorce, il est entre 50 et 65 ans, il est 18% exactement. Et au-delà de 65 ans, il a effectivement progressé de 40%, mais on venait de 6%. Donc, ça fait un 7 ou 8%. Hein, donc,
oui, mais ça note un changement d'état d'esprit, peut-être, à cette période de la vie, maintenant.
C'est vrai. Non, mais juste pour dire, rassurer les couples existants, le chemin normal, c'est de ne pas se séparer. Mais néanmoins, c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'autorise plus facilement à se séparer parce que il y a moins de pression sociale pour rester ensemble et que c'est il y a la prise de conscience chez les retraités qui ont 25 ans de vie devant eux, hein, c'est une troisième mi-temps de la vie, qu'il était temps que l'horloge biologique tourne et qu'il est temps de se rapprocher de ce qui est essentiel pour eux, de ce qui leur correspond vraiment. Donc, ils font un coup de rétroviseur et un coup de projecteur. Rétroviseur en se disant, depuis que je suis adulte, en gros, est-ce que j'ai fait à peu près ce que j'avais vraiment envie de faire qui correspondait à l'essentiel de ce que je suis. Et le coup de projecteur, c'est dans les 25 ans qui me restent, comment je vais faire pour me rapprocher de cet idéal-là? Et alors, quelquefois, la réponse passe par, pour me rapprocher, je suis pas dans le bon couple, hein. Et à ce moment-là, je peux décider de changer de conjoint.
C'est ça, ils ont eu des enfants, ils ont 20-30 ans, ils sont élevés, ils ont travaillé, maintenant ils peuvent penser à eux enfin, c'est un peu ça l'idée. Et du coup, ça peut leur demander des changements de vie. Alors j'ai vu que c'était surtout la femme qui demandait le divorce.
Oui, mais ça c'est vrai de tous les âges. Que ce soit les femmes qui demandent le divorce, c'est un phénomène général, même plus jeune. L'autre phénomène qu'on note aussi, c'est que la femme reste plus seule que l'homme. Une femme de plus de 70 ans sur deux vit seule. L'homme, pour des tas de raisons, peut-être pratiques, on ne sait pas, ou parce qu'il vit moins bien la solitude, se remet en couple beaucoup plus rapidement qu'une femme qui vient de se séparer de son mari.
Oui, les hommes se recasent plus vite après 70 ans.
Se recasent plus vite, ouais.
C'est peut-être parce qu'ils se débrouillent plus mal tout seuls aussi, c'est ce que vous disiez. En tout cas, parallèlement, si les mariages ont augmenté sur cette tranche de vie, Hervé Sauzet, plus 17% ouais. Entre 2005 et 2009, alors que d'une manière générale, ça baisse de 10%. Sur la même période hein, chez les moins de 60 ans. Alors qu'est-ce qui fait qu'on cherche vraiment à se remarier aussi?
Ben, c'est un peu pour symboliser le départ d'une nouvelle vie, lui donner des fondations. Et puis la deuxième raison, je crois, c'est que c'est quand même une génération un peu traditionnelle quand même dans ses valeurs, pour laquelle le mariage représentait quelque chose d'important. Donc le premier mariage n'a pas fonctionné, il tombe amoureux de quelqu'un d'autre, il considère qu'ils peuvent construire une nouvelle vie avec cette autre personne, ils vont assister naturellement à un moment donné penser au mariage. Mariage aussi un air de sécurité. Hein, donc,
de mettre à l'abri d'une manière financière des deux conjoints, c'est ça?
En plus, absolument, parce qu'on peut commencer à penser à l'héritage. Oui.
Il y a aussi la question de la dépendance, hein. C'est-à-dire que plus on vieillit, plus on risque d'être dépendant et quand on a un conjoint, on peut aussi se soutenir le plus longtemps possible en couple et chez soi avant la maison de retraite.
Donc, vous pensez que c'est pour ça qu'on se marie alors? Oui, Hervé Sauzet.
Non, je pense pas que ce soit pour ça qu'on se marie, mais peut-être qu'inconsciemment, ça fait partie des raisons qu'on peut avoir. Mais la dépendance, aujourd'hui, on vit âgé, hein, vous le disiez au début de l'émission, 85 ans pour les femmes, 78 ans pour les hommes. Donc, on a un risque de dépendance un peu plus élevé parce que la dépendance arrive aux alentours des 80 ans, quand elle arrive, mais là aussi, soyons positifs, elle n'arrive que dans un cas sur 10. Bon, mais néanmoins, avec les petites affections de l'âge, on peut avoir un peu mal au dos, une petite difficulté, une petite absence, etc. C'est vrai que on est content d'avoir quelqu'un auprès de soi.
Bon, on est plus fort à deux.
On est plus fort à deux, mais je crois, je sais pas ce que votre psychologue en pensera, mais je crois que surtout la vraie raison la plus importante, c'est que on n'est pas très heureux seul.
Tout à fait.
C'est la vie de relation qui fait le bonheur.
Même si on se mange le nez. On verra ça dans la deuxième partie. Merci beaucoup Hervé Sauzet d'avoir été en direct avec nous. Vous êtes le président de l'Institut français des seniors. Linda Haïn Améry, psychanalyste et formatrice et superviseure d'équipe soignante dans les maisons de retraite. Vous restez avec nous. On se retrouve dans 3 minutes après le flash. Nous aurons également Marie de Henzel qui est psychologue et qui vient de publier Sex and the 60s. C'est aux éditions Robert Laffont Versilio. Alors, l'amour et le sexe ne sont pas le monopole de la jeunesse, c'est ce qu'on verra avec elle. Vos réactions, les voisins, les voisines, on les attend sur Facebook. Hey.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue les voisins, les voisines, merci de nous rejoindre sur la radio mondiale. Peut-on retomber amoureux après 60 ans? Cet âge correspond souvent à une nouvelle étape, les enfants ont grandi, la vie de travail s'achève et les projets émergent avec le désir de profiter de la vie à deux. Que recherchent les seniors qui vivent une nouvelle histoire d'amour et les enfants? Comment réagissent-ils? On attend vos questions, vos commentaires au 33 1 84 22 71 71 et sur Facebook. Et nous sommes avec Linda Aïn Amiri, psychanalyste et formatrice et superviseure aussi d'équipes soignantes dans les maisons de retraite. Alors est-ce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, tomber amoureux après 60 ans peut marquer le début d'une vraie très belle période de vie?
Oui, oui, en effet, parce que comme vous dites, on est plus libre, on a plus des moyens financiers et puis on est un peu plus au clair sur le sens qu'on a envie de donner à sa vie. Donc, en effet, on peut espérer rencontrer, si on n'est pas déjà avec la personne qui conviendrait plus à ses attentes, on peut espérer de rencontrer une personne à ce moment-là de sa vie, et ça n'est que... C'est un beau cadeau de la vie.
Alors nous avons tout de suite au téléphone Massaman qui nous appelle de Dakar. Bienvenue Massaman.
Oui, bonjour Sandrine.
Alors merci d'avoir composé le 33 1 84 22 71 71. On écoute votre témoignage.
Bon, au fait, moi je dirais qu'après 60 ans, moi je parlerais surtout de sentiment de renaissance, de soutien et d'accompagnement. C'est pas vraiment l'amour éros comme chez les jeunes, avec beaucoup d'illusions, beaucoup de passion. Mais je dirais qu'après 60 ans, il y a beaucoup de changements dans la vie d'une personne. Et à cet âge-là, on est à la recherche vraiment d'un sentiment de reconnaissance. Beaucoup de changements d'ordre représentation sociale, beaucoup de changements et d'ordre physiologique même, parce que après 60 ans, c'est un peu la ménopause. Donc, il y a en quelque sorte une sorte de doute qui s'installe dans la tête de cette personne-là. Donc, vraiment, ils ont besoin de se sentir avec quelqu'un qui les comprenne, qui les soutienne. Ne serait-ce qu'il y a une augmentation de certaines maladies à cet âge-là, les aider vraiment à mener une bonne hygiène de vie, Et surtout.
Merci beaucoup, Massaman, pour votre témoignage. Linda Aïn Amiri, vous voulez réagir à ce que vient de dire Massaman?
Oui, j'entends bien son témoignage. On peut aussi... C'est vrai que c'est une période qu'on a envie d'être rassuré, mais c'est important aussi de renoncer à cette idée de trouver une personne avec qui il y aura moins de performance, avec qui on a moins de qui supporterait un peu plus entre guillemets les défaillances physiques de l'homme. On sait bien que la jouissance, c'est très mystérieux, hein. C'est on n'a pas toujours. C'est-à-dire, c'est important pour l'homme qui renonce à cette idée pour être viril, il faut avoir dans le rapport amoureux une érection. On sait bien qu'avec l'âge, ça diminue, pas chez tout le monde, mais chez certains, et que c'est important de penser à quand on est dans le désir de partager ce plaisir à deux et parfois, les patientes que je vois et qui me disent, mais on a besoin de trois fois rien. C'est-à-dire, c'est une question de jeu, de rêverie, de partager. Et c'est important d'être dans cette capacité de rêver et d'être suffisamment tranquille avec l'autre et avec soi-même pour qu'il y ait cette complicité.
Alors la sexualité et l'amour donc ne sont pas le monopole de la jeunesse. La preuve aussi dans le dernier livre de Marie de Henzel, psychologue, et qui vient juste de paraître, Sex and the 60, aux éditions Robert Laffont Versilio. Et Marie de Henzel est avec nous en direct. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors vous avez une très belle phrase dans votre livre. Ce n'est pas parce qu'on vieillit qu'on doit se sentir moins désirable.
Oui, alors je vais tout à fait dans la foulée de ce que je viens d'entendre de Moussama et la psychanalyste qui est sur votre plateau. Je pense que il y a, on a très très bien décrit quels étaient les obstacles peut-être au sentiment de rester désirable, mais je crois que ce sont des obstacles qui sont très liés à une norme jeuniste où il faudrait avoir une sexualité performante, comme vous l'avez très justement dit. Et donc, si on veut rester amoureux, désirant, désirable, il faut absolument changer de registre. C'est ce que j'ai observé dans l'enquête que j'ai faite pour mon livre auprès de sexagénaires et de septuagénaires aussi. On peut rester amoureux, on peut rester désirant, on peut continuer à faire l'amour, mais pas comme on le faisait à 30 ou à 40 ans.
Mais comment on peut garder cette confiance dans un corps qui effectivement est avec la déchéance du corps, avec ce corps qui fait mal aussi?
Parce que justement, c'est peut-être pas tellement lié au corps, le désir et l'amour. Il faut dépasser le corps. Bien sûr, le corps change, il n'est plus le même, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas en prendre soin, parce que je crois que les femmes qui restent désirables et désirantes prennent soin de leur corps, mais néanmoins, il vieillit. Mais le désir n'est pas lié uniquement à l'image. Il y a une sorte de... C'est ce qui fait partie de cette... Vous voyez, cette... nous sommes dans un jeunisme qui privilégie l'image, alors qu'en fait c'est la sensation et la perception qui comptent. Si on sent que l'homme avec qui on est bien dans ses bras, que l'on est bien avec lui, à ce moment-là, le désir rejaillit. Il faut cesser de se regarder dans l'image. C'est pour ça que je parle, moi, de révolution narcissique, parce que il faut... Si on continue à se regarder, à ce moment-là, on va dans le mur. Hein. Il faut sentir, se sentir bien avec l'autre.
Oui, vous écrivez d'ailleurs, il ne faut pas chercher à retrouver ce qu'on a connu plus jeune. Non, donc il faut vraiment être prêt à découvrir un autre voyage.
Voilà, c'est un autre voyage et c'est vrai que dans ce voyage, nous ne sommes pas très aidés en Occident. Et c'est pour ça que je me suis intéressée, moi, à ce que j'appelle des voies érotiques autres qui viennent de l'Orient, de la Chine, par exemple, de l'Inde, dans lesquelles la sexualité a toujours été vécue comme quelque chose de sacré, c'est-à-dire la relation entre un homme et une femme, une énergie féminine, une énergie masculine, et où on a exploré des voies érotiques qui n'ont rien à voir, comme vous le disiez, avec la recherche de l'orgasme. Et dans ce registre-là, les hommes sont beaucoup plus à l'aise, parce que s'ils n'ont pas d'érection, effectivement, ça ne les empêche pas de prendre une femme dans leurs bras, ça ne les empêche pas d'avoir un imaginaire, d'avoir tout un côté ludique, créatif, de la caresser, d'aller vers elle, de créer une intimité. Tout est question, il y a deux mots très importants quand on avance en âge, c'est l'abandon et l'intimité. S'abandonner à ce qui est là, avec l'autre, prendre le plaisir là où il est, comme il est, ne pas se référer à ce qu'on a connu plus jeune, et chercher l'intimité. C'est pour ça que la qualité de la relation est très importante.
Et qu'est-ce qui se passe dans le couple? Comment on apprivoise aussi, vous parliez de cette intimité, de cette complicité, avec l'idée de la mort qui se rapproche?
Ben, vous savez, le fait de savoir qu'effectivement on avance en âge et que peut-être et que la mort on la rencontrera peut-être plus tôt, personne ne sait, mais ça permet aussi de mieux sentir l'importance du présent. Je crois que les gens que j'ai rencontrés vivent le présent. Ils ne savent pas ce qui se passera dans 6 mois, ni dans 1 an. Et donc, ils vivent intensément le présent et peut-être beaucoup plus profondément et beaucoup plus sensuellement que lorsqu'ils étaient plus jeunes.
Et pour terminer, Marie de Wenzel, qu'est-ce qui fait qu'encore aujourd'hui, l'amour est si tabou chez les plus vieux?
Parce que, encore une fois, on l'a associé à la jeunesse. Hein. Enfin, l'amour, non. La sexualité est associée à la jeunesse, l'érotisme. Monsieur disait, votre interlocuteur disait qu'il n'y a plus d'éros. Mais moi, je crois que c'est un éros plus mature que l'on peut explorer, justement. On est dans une société qui, justement, a associé jeunesse et sexualité. Or, je pense que ça fait beaucoup de mal, parce que quand on a aimé faire l'amour, quand on a été amoureux, quand on a été désirant, il n'y a aucune raison qu'on cesse de l'être. Parce que si le corps vieillit, le cœur ne vieillit pas. Et le cœur, c'est-à-dire le goût de vivre, le goût de rencontrer l'autre, encore une fois, la sensualité, par exemple, est quelque chose qui ne diminue pas en vieillissant. Moi, j'ai rencontré des personnes très âgées extrêmement sensuelles.
Merci beaucoup pour votre témoignage. Donc Marie de Henzel, psychologue, vous venez de publier Sex and the 60, un avenir pour l'intimité amoureuse. C'est aux éditions Robert Laffont et Versilio. Merci encore pour avoir été avec nous en direct. Linda Aïn Amiri, vous êtes aussi psychanalyste. Donc si je résume bien, donc avec le grand âge, l'amour n'est pas dans l'acte sexuel, ça passe par autre chose, donc on découvre autre chose, on existe aussi dans le regard de l'autre. Comment s'opère, je dirais, petit à petit la bascule?
C'est la relation de confiance, hein. C'est aussi la capacité à faire le deuil de ce qu'on a connu avant et d'accepter, comme vous avez si bien souligné, de changer et de faire avec ce corps vieillissant et de soutenir son désir. Parce que quand on a un imaginaire, quand on est dans le désir, quand on a envie de partager le jeu amoureux et la mise en scène érotique, c'est quand même une façon de rester en lien avec soi et de donner envie à l'autre de prendre... De partager cette mise en scène.
Alors, qu'est-ce que vous constatez, vous, dans les maisons de retraite, avec les soignants que vous formez, quand naît de nouvelles relations amoureuses, donc dans ces espaces où on pensait que c'était le dernier lieu de vie, comment réagissent les enfants, par exemple?
Alors, tout est une question est-ce qu'on a résolu son Œdipe ou pas. Vous savez, pour certains enfants qui ont 60 ans et dans les parents qui ont quand même 80, 85 ans, pour certains, c'est difficile de voir son parent amoureux d'une autre personne alors que dans leur tête, il faut qu'il soit encore avec leur mère. Bon, la mère étant décédée, le père placé ou la mère parfois elle-même placée rencontre, vit une histoire d'amour, rencontre une personne. Pour certains, c'est très difficile de supporter cela. Pour d'autres, ils soutiennent cette rencontre-là parce qu'ils sont tranquilles. Mais à cette occasion, on voit bien aussi comment ces enfants qui ont 60 ans vivent leur âge adulte et parfois ils se prennent pour les parents de leurs parents. Il y a un inversement générationnel alors que ça reste toujours les enfants de leurs parents, même si les parents sont dépendants, parfois atteints de maladies démentielles. Ils ont le droit d'aimer, de désirer, d'avoir une sexualité, surtout que dans la maison de retraite, on leur dit qu'ils sont chez eux. Et donc, ils ont le droit d'avoir une vie intime.
Et en préparant cette émission, vous me disiez, Linda Aïn Amiri, que dans certaines civilisations, cultures aussi, et les enfants cherchent à remarier aussi leurs père pour qu'il ne reste pas veuf.
Tout à fait, dans les sociétés traditionnelles en Afrique, notamment dans les pays du Maghreb, souvent les filles s'occupent de trouver quand c'est plus tabou quand c'est la mère qui reste en vie et que le père qui décède. Donc on cherche pas à marier sa mère, mais l'inverse est plus fréquent parce que il y a cette question de l'autonomie, le père vieillissant, la fille peut assurer son quotidien, mais ne peut pas assurer la toilette intime. Donc l'intérêt, c'est de lui trouver une femme qu'il a envie aussi d'avoir. Hein. Donc c'est en général toute une négociation culturelle et souvent les hommes veufs se remarient parce qu'il y a cette crainte d'être à un moment de sa vie dépendant et de ne pas pouvoir assumer sa vie intime.
Alors, on va tout de suite prendre au téléphone Poulot qui nous appelle de Dakar. Bonjour Poulot, merci, bienvenue sur l'antenne d'RFI.
Bonjour Sandrine, merci.
On vous écoute.
Oui, je disais, on va parler de l'amour après 60 ans. Moi, je dis que l'amour n'a pas d'âge, parce qu'on vieillit, mais le cœur ne vieillit pas. Il y a une dame que vous avez invitée tout à l'heure qui parlait de ça dans son livre. En plus, moi, je dis qu'après 60 ans, la personne a peur d'être seule, parce que quand on vieillit aussi, on a besoin de quelqu'un à côté pour s'occuper de vous. Même si en Europe, après 60 ans, si on n'a pas d'enfant ou quelqu'un qui s'occupe, vous êtes dans des maisons de retraite. Mais contrairement au Sénégal, c'est mal vu de mettre dans les maisons de retraite. Donc, on est obligé de les garder dans les maisons et d'avoir quelqu'un. On a peur aussi d'être seul à 60 ans.
Est-ce que c'est votre cas, par exemple? Est-ce que vous avez un parent qui a déjà 60 ou 70 ans et qui se retrouve seul et que vous aimeriez...
Oui, ma grand-mère, elle habitait dans notre village près de Louga. Donc, elle vivait seule. Son mari était décédé. Donc, elle était retrouvée seule. Après 60 ans, on a les problèmes pour trouver un autre mari. Donc, on est obligé de revenir à la maison familiale pour s'occuper de soi.
D'accord, donc là, la difficulté de trouver un nouvel amour donc, fait qu'on revient dans la maison familiale pour ne plus être seul et pour pouvoir continuer d'exister. Mmh. Merci beaucoup, hein, Poulo, pour votre témoignage depuis Dakar, au Sénégal.
Ce que nous dit aussi cette auditrice, et c'est important de le souligner, on ne cherche pas un amoureux parce qu'on a peur d'être dépendant, mais plutôt aussi... parce que ça maintient en vie et ça maintient le désir. C'est pas la peur de la dépendance qui pousse une personne âgée d'aller chercher un amoureux. C'est aussi pour rester en vie jusqu'au bout.
Alors on écoute tout de suite Boy Boy de Jesse Rose Tripp et on ira voir comment les seniors réagissent sur les sites de rencontres internet. Retomber amoureux après 60 ans, les voisins, les voisines, avec l'allongement de la durée de vie, on peut bénéficier d'une deuxième, voire d'une troisième vie amoureuse. Et les sites de rencontres touchent tous les publics, y compris les sexuagénaires. Étonnant, pas vraiment. Nous avons Benoît Combes qui a fondé netsenior.fr. Et bonjour Benoît, puisque vous êtes avec nous en direct.
Oui, bonjour, bonjour.
Alors, d'une manière générale, quelles sont l'attitude des seniors vis-à-vis des sites de rencontres? Est-ce qu'ils y vont en marchant sur des œufs ou est-ce qu'ils sont vite familiers? Comment ils les regardent, ces sites?
Si vous voulez, il n'y a pas une grande différence, si vous voulez, avec les autres tranches d'âge. Je dirais que simplement, les seniors, à l'heure actuelle, sont de plus en plus nombreux et souhaitent... profiter, je dirais, des dernières technologies actuelles pour pouvoir communiquer, échanger avec de nouvelles personnes.
Alors, c'est vrai qu'en France, c'est quand même un sacré créneau. C'est un créneau porteur, j'imagine, pour un site de rencontre comme vous. Car j'ai vu un tiers, c'est ça, des plus de 65 ans, en fait, vivent seuls, soit parce qu'ils sont veufs ou divorcés ou donc jamais mariés. Donc, il y a un vrai public pour vous. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher sur votre site de rencontre?
Alors, avant tout, bon, ils viennent chercher quand même donc à faire des rencontres sentimentales, mais également ils cherchent à faire des rencontres pour éventuellement sortir. Comment m'expliquer, hein. le concept en fait n'est pas nouveau. C'est-à-dire le concept a démarré aux États-Unis en 2005. En France, le mouvement est apparu un peu plus récemment.
Oui, parce que sur votre site, on voit que vous conseillez d'abord aux gens d'abord de se faire des amis, de sortir, et alors peut-être la rencontre amoureuse se fera. C'est ce que j'ai lu hein, sur votre site. Donc vous dites que vous n'avez peut-être pas rencontré la grande histoire d'amour tout de suite. Ça n'est pas si facilement sur le net, mais ça permet de se sentir vivant, en lien avec les autres. Oui, enfin Linda... Aïn, Amiri, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vaut le coup d'aller sur les sites de rencontres quand on a 60, 65 ans?
Après, c'est une question subjective. Hein, et il y en a qui s'autorisent à le faire et d'autres non. Mais c'est vrai que c'est une réalité. Enfin, en tout cas, moi, dans mon cabinet, je reçois des femmes qui maintenant s'autorisent à le faire parce qu'il y a ce sentiment de solitude, parce qu'elles approchent de la soixantaine, parce qu'elles ont envie de rencontrer un amoureux, et parfois c'est plus simple et c'est plus facile.
Mais il faut du courage quand même pour les plus vieux, car c'est pas franchement dans leur culture, non, d'aller se vendre sur un site, parce que là, il faut quand même rédiger son profil, il faut faire son CV, Benoît Combes.
Oui, mais je dirais que les pratiques des seniors se différencient quelque peu des autres tranches d'âge, en ce sens que les buts recherchés sont plus variés. Les plus de 50 ans recherchent pour la rencontre sentimentale, mais pas seulement. Désormais, de nombreux seniors recherchent une nouvelle complicité qui allie amitié, voire amour, culture et connaissance. Donc on n'est plus, à l'heure actuelle, on n'est plus vraiment dans la rencontre traditionnelle. On ressent que les seniors, quand même, cherchent avant tout à faire des rencontres. Mais pas que cela, c'est-à-dire partager, comme je vous ai dit tout à l'heure, partager des connaissances, des cultures, sortir, voilà.
Merci beaucoup, Monsieur Benoît Combes. Donc, vous avez fondé le site internet netsenior.fr. Merci en tout cas d'avoir été avec nous en direct. Merci à vous aussi, hein, Linda Aïn Amiri, donc psychanalyste et formatrice, également superviseur hein, d'équipe soignante dans les maisons de retraite. Merci beaucoup pour cette première.
Merci.
C'était très bien. Merci d'avoir accepté cette invitation.
Merci à vous.
Et on va terminer l'émission avec une toute nouvelle radio sur internet. C'est Radio Divorce. Alors, c'est une idée carrément originale hein, de Yves Toledo, qui est avocat spécialiste du divorce et fondateur donc de Radio Divorce. Et Yves Toledano, vous êtes en direct avec nous. Bonjour.
Bonjour à vous.
Alors merci de nous parler donc de ce concept, hein, Radio Divorce. Ça doit carburer, j'imagine, non? Parce qu'il y a des milliers de gens donc, qui divorcent chaque année.
Oui, c'est vrai qu'il y a chaque année à peu près 250 000 personnes qui divorcent et certainement autant qui se séparent et qui ont besoin de voir le juge aux affaires familiales parce qu'il y a des enfants, donc il faut fixer la garde. Donc c'est vrai que ça concerne beaucoup de monde et c'est vrai que l'idée au départ peut paraître un peu surprenante, mais finalement c'est un vrai service que l'on rend à énormément de personnes qui ont besoin de conseils, de renseignements sur la séparation et le divorce.
Donc c'est une radio de service, je dirais presque de service public, c'est ça? Le principe, c'est qu'on vous pose des questions et il y a des conseils d'avocats en direct.
Alors voilà, exactement. On a une équipe d'avocats et de juristes qui sont bénévoles et qui répondent dans des émissions tous les jours en direct à des questions qui nous sont posées par les auditeurs. Donc les auditeurs laissent leurs questions sur le répondeur et donc on trie les questions parce qu'on a évidemment beaucoup, beaucoup de questions de toutes sortes. Alors on peut pas faire de consultation, hein. Il faut aller voir un avocat en cabinet. Et là, on répond de manière générale à des questions précises du type je divorce, est-ce qu'il me faut un avocat? Combien de temps ça va prendre? Comment faire pour toucher la pension alimentaire? Comment est-ce qu'on fait pour la garde des enfants? Donc c'est vraiment des questions un peu de base sur le droit de la famille et tous les jours à l'antenne, on a des émissions en direct avec des juristes qui interviennent et qui donnent des conseils. On a également le côté psycho aussi, hein, donc on a des psys qui viennent expliquer comment se remettre après une rupture, comment éviter parfois la séparation. Donc on a pas mal de conseils dans ce sens-là.
Et ce sont des conseils gratuits ?
Oui, alors tout est gratuit. L'application pour écouter la radio est gratuite. Sur Internet, c'est gratuit. Le numéro de téléphone pour nous appeler n'est pas surtaxé. Et les avocats sont bénévoles. Donc, c'est vraiment un service que l'on rend. On s'est regroupé quelques avocats pour faire ça. D'abord parce que ça nous amuse, c'est assez agréable de faire des émissions en direct depuis le cabinet. Hein.
Oui, comment vous avez eu cette idée? Oui, c'est ça, vous êtes dans votre cabinet d'avocat et en même temps vous répondez aux auditeurs.
Ben, c'est ça. Ouais. Voilà, c'est ça en fait. Bon, moi j'ai toujours fait, moi ça fait 17 ans que je suis avocat, que je fais des divorces, mais en parallèle j'ai toujours fait de la radio, de la télé, c'est quelque chose qui m'a toujours plu depuis tout petit. Et donc c'est vrai que là en fait j'allie mes deux activités qui sont avocat en divorce et les médias. Et donc on a un logiciel de diffusion qui est tout simple, hein. C'est pas du tout comme RFI. On a un petit studio mini avec quelques micros, un ordinateur, mais ce qui nous permet de prendre l'antenne tous les jours. On diffuse 24 heures sur 24 et on fait des émissions en direct, on prend également des appels et tout ça depuis un bureau de mon cabinet, donc c'est assez amusant de faire ça dans ces conditions-là.
Mais c'est ça qui est agréable avec la radio, c'est le côté artisanal et en même temps vous touchez beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde.
Ben c'est vrai qu'on a un logiciel qui nous permet, si l'envie me prend de prendre mon ordinateur, mon micro, de mettre sur un banc sur les Champs-Élysées, je peux faire mon émission de là où je me trouve avec des appels et faire du direct. Donc c'est très très souple.
Pas tout de suite sur les Champs-Élysées, vous risqueriez d'être un peu... Il y aurait du monde avec vous sur les Champs-Élysées. Merci beaucoup Eve Toledano, avocat spécialiste du divorce et fondateur de Radio Divorce. Merci à tous les voisins, les voisines pour vos messages. Merci à toute l'équipe. Et demain, les passions mécaniques des voisins, le tuning par exemple, ou la collection de voitures anciennes, de bolides, pourquoi et comment se vivent ces passions au quotidien. Lâchez-vous sur nos réseaux ou appelez-nous au 33 1 84 22 71 71. Je vous dis à demain, portez-vous bien.